Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Bonjour à tous, aujourd'hui et comme toutes les semaines, on reçoit au micro Françoise Verna qui est rédactrice en chef de La Marseillaise et qui va nous parler des titres à la une à paraître ce vendredi. Bonjour Françoise.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors sans attendre, on commence d'abord par votre dossier sur la sécheresse qui s'incruste dans notre région.
Oui, tout à fait. Donc, on a une situation qui commence à être inquiétante puisque on a une sécheresse hivernale qui s'est installée et on a des prévisions assez pessimistes pour les prochaines semaines à venir. Évidemment, il y a une conséquence directe sur la ressource en eau. Ouais. Et nous avons notamment interrogé dans ce dossier Éric Serva, qui est le directeur du centre UNESCO sur l'eau, qui est basé à Montpellier. Ouais. Et nous exposons aussi dans ce dossier les solutions possibles, notamment pour préserver cette ressource en eau.
D'accord, on a hâte de connaître ces détails. Votre deuxième dossier aujourd'hui dont on va parler, c'est du nouveau pour la maternité de Ganges. On suit de près cette actualité. Alors, qu'est-ce que vous avez de nouveau ?
Alors, en fait, nous avions déjà annoncé dans nos précédentes éditions et donc au micro de Divergence qu'il y avait une réunion importante qui devait se dérouler et qui s'est déroulée le 14 mars, donc c'était mardi 14 mars, avec notamment l'Agence régionale de santé, et qui a donc annoncé au collectif de défense de la maternité de Ganges et aux élus locaux qu'il y aurait la construction d'une nouvelle clinique avec donc une maternité, cette nouvelle clinique qui serait située à l'entrée de la commune ouvrirait ses portes en 2025. Les élus locaux, notamment le maire de Ganges, sont satisfaits. En revanche, le collectif est plutôt dubitatif parce que l'urgence pour eux, c'est que les femmes puissent accoucher à Ganges, ce qui n'est pas le cas actuellement depuis plusieurs mois. Ouais.
Alors, on continue bien sûr, comme d'habitude, sur la bataille des retraites cette semaine décisive avec une huitième journée de mobilisation. Qu'est-ce qui se passe, Françoise, encore ?
Alors, on sait que depuis plusieurs semaines, le mouvement social et le rejet de la réforme Macron des retraites, dont le cœur de la réforme, c'est d'allonger de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite. Donc, y compris la société et les Français sont très majoritairement opposés à ce projet Macron. Et il y a un mouvement social qui ne faiblit pas. Mercredi, donc, c'est une nouvelle journée de mobilisation. Et il y a aussi le parcours du texte au Parlement. Donc, nous, dans la Marseillaise, de ce vendredi, nous allons bien évidemment rendre compte de ces débats, puisque la commission mixte paritaire de l'Assemblée nationale doit se réunir mercredi et il y aurait peut-être un vote au Parlement, au Sénat et à l'Assemblée nationale jeudi. Oui. En attendant, on donne la parole aussi évidemment aux salariés et aux syndicats qui sont vent debout contre cette réforme et aux élus d'opposition de gauche qui sont aussi très opposés. Oui. Donc on consacre plusieurs pages à cette grande bataille sociale. Bien évidemment, on ne peut pas dire à l'heure où on se parle quelle en sera l'issue. Une chose est certaine, c'est que le mouvement social ne va pas s'éteindre comme ça sur ce sujet majeur, avec toujours le mot d'ordre du retrait, de mettre en échec cette réforme.
D'accord. Eh bien, on continue à en parler alors et on finit un petit peu avec de la douceur, avec de la culture. Vous allez nous parler de deux temps forts, c'est le concert de la Grande Sophie et ensuite la Comédie du Rire.
Oui, tout à fait. Alors, ça se passe à Montpellier. Donc, la Grande Sophie, qui est une grande chanteuse, auteure et compositrice, elle sera le 23 mars au Rockstore de Montpellier. D'accord. Elle y était déjà venue il y a pas mal de temps Et là, elle revient avec son nouvel album, en tout cas les chansons de son nouvel album qui s'appelle La Vie Moderne.
Ouais.
Et donc, ça va être des retrouvailles entre cet artiste et le public, une artiste qu'on apprécie beaucoup. Et c'est pour ça que nous avons un grand plaisir de la voir en interview dans nos colonnes ce vendredi. Merci. Et puis, on a besoin aussi de bonne humeur. Et donc, il y a la Comédie du Rire. C'est le festival d'humour de Montpellier qui commence le 15 mars jusqu'au 7 avril. Donc, c'est plusieurs spectacle d'humour un peu partout à Montpellier. On donne tout le détail dans le journal.
Super, et bien on a hâte de découvrir tout ça. À la une de la Marseillaise, vous avez les titres. Merci Françoise Vernat et on les détaille tout de suite.
Politique, sociale, société, économie, France et internationale, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Alors, on commence tout d'abord par votre dossier sur la sécheresse qui s'incruste dans notre région, Françoise. Qu'est-ce qu'il se passe ?
Alors en fait, on s'aperçoit tous évidemment qu'il ne pleut pas depuis plusieurs semaines.
Ouais.
Et donc évidemment, ça se traduit par une sécheresse hivernale, même si l'hiver est en train de se terminer. On est déjà en état de sécheresse, comme si nous étions dans une période estivale. Alors qu'est-ce qui se passe ? En fait, il se passe que comme il n'a pas plu, les nappes phréatiques, donc les eaux souterraines, n'ont pas pu se renouveler correctement.
Ouais.
Et ce qui a motivé un peu notre dossier, c'est que en fait, il y a eu un rapport qui est sorti en début de semaine. Et donc, c'est le Service géologique national français, donc le BRGM, qui, lui, assure le suivi du niveau de ces nappes phréatiques. Eh bien, il nous apprend que 80% de ces nappes phréatiques sont à un niveau bas, voire très bas. Et il faut savoir que ces nappes phréatiques, elles assurent l'essentiel de notre eau potable. Hein. C'est de l'ordre de près de 70%. Et donc, s'ajoute bien évidemment à cette situation des problèmes de débit dans les cours d'eau. On a déjà un département, en tout cas sur notre zone à nous de diffusion, qui est le Gard, qui est mis en alerte sécheresse. Donc, pour des raisons de manque d'eau essentiellement. Alors, c'est-à-dire que tous les cours d'eau de ce département sont en vigilance.
Oui.
Ça veut dire que pour l'instant, c'est des recommandations à faire attention dans l'usage de l'eau. Mais ça pourra être renforcé si dans les prochaines semaines, il ne pleut pas suffisamment. Donc, ça ne va pas certainement suffire, ce premier arrêté, qui court jusqu'à octobre 2023, et qui pourra être renforcé. Les maires pourront aussi prendre eux-mêmes des arrêtés. Mais au-delà du constat, dans ce dossier, donc nous présentons aussi des solutions.
Oui.
Il y a par exemple la solution du recyclage des eaux usées, notamment pour l'agriculture. Il faut savoir qu'en France, on ne recycle qu'un pour cent de nos eaux usées. Il y a encore, c'est vraiment très très peu.
Ouais.
Il y a un petit, il y a de la réticence d'un point de vue, on va dire, de l'acceptation sociale, parce que qui dit eau usée dit quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas propre.
Ouais.
Sauf qu'il y a des techniques aujourd'hui de recyclage qui font que ces eaux usées sont quasiment buvables.
Oui.
Et notamment pour l'agriculture, ça peut être intéressant. On a aussi interrogé Éric Servat.
D'accord.
Qui est donc le directeur du centre UNESCO sur l'eau. C'est un centre qui est basé à Montpellier.
Ouais.
Et lui, il nous explique qu'il va falloir qu'on change notre façon, notre regard sur l'eau, mais aussi nos pratiques. Hein. Par exemple, c'est une séquence évidemment qui n'est pas exceptionnel. C'est-à-dire que, selon lui, nous l'avons interrogé, hein, ça fait déjà 3-4 ans qu'on est en butte à cette sécheresse, hein, ouais. Et il estime que ça va être de plus en plus fréquent et qu'il va falloir faire avec. Oui. Alors, il donne par exemple un pourcentage, hein, ce qu'on appelle l'hiver météorologique, hein, décembre, janvier, février. Ouais. La région Occitanie a connu donc 36% de précipitations en moins par rapport à un hiver normal. Donc, c'est quand même très conséquent. Et puis, il nous rappelle aussi, c'est très intéressant et important, c'est-à-dire que la consommation domestique, hein, oui. C'est-à-dire des particuliers, des ménages, elle ne représente que 10% de l'utilisation de la ressource en eau. D'accord. Et c'est le monde agricole, avec 70%, qui est le plus utilisateur de l'eau. Pour ce qui est de l'industrie, c'est 20%. Donc, on peut agir, nous dit-il, puisque déjà on peut agir sur les pratiques agricoles, hein, ouais. Différentes. Il y a déjà des expériences qui sont mises en place. On peut agir aussi sur le réseau, les réseaux d'alimentation, puisque 20% de notre ressource en eau est perdue dans les fuites. Ouais. Donc on voit qu'il y a un certain nombre d'actions possibles. Et puis, aussi bien lui qui est un acteur de l'eau, hein, un spécialiste de l'eau, que les élus locaux, ils attendent avec impatience les annonces du plan eau à venir. Ouais. De la part du gouvernement. Alors, ce qui est un peu dommage, et on le souligne dans le dossier, c'est que ce plan devait être annoncé le 26 janvier et il est repoussé. Et donc, il y a des mesures quand même d'urgence qui devraient être prises. Il y a aussi un levier sur lequel on peut agir, et les collectivités le font. L'exemple de Montpellier est très important. C'est-à-dire que la ville de Montpellier, depuis le 1er janvier, a changé ses tarifs de l'eau. Et en fait, le principe, c'est de... Bon, il y a la gratuité pour les premiers mètres cubes. Ouais. Et puis, plus on consomme et plus on paye. Donc, ça permet aussi d'agir sur... sur les particuliers directement. Ce qui est intéressant aussi, alors c'est une régie intercommunale, hein, c'est la métropole, hein, oui. Et c'est la régie des eaux, c'est important parce que c'est le service public et elle a permis, depuis 2016, hein, cette régie a permis de faire diminuer la facture de 10%. Et d'accord. Elle a permis, dans le même temps, puisque l'argent de l'eau va à l'eau et pas dans la poche d'actionnaires, ça a permis aussi de multiplier les investissements par 5. Donc, il y a aussi, dans la gestion, et selon la nature de la gestion, que ça soit publique ou privé, il y a aussi des pistes pour préserver cette ressource en eau. Et donc, dans ce dossier, nous faisons, on pense, un petit peu le tour des différentes problématiques et des enjeux.
Eh ben,
voilà pour notre dossier.
Ça en fait des informations et je constate que c'est un sujet qui est très important parce que hier, on recevait justement une spécialiste à ce sujet dans oui. Allume la science à la radio oui. qui nous parlait justement de ces solutions aussi. Et du coup, on a hâte de lire tout ce que vous nous apportez.
Oui, il y a beaucoup de chercheurs à Montpellier qui travaillent de chercheuses.
C'est
de
ça, oui, elle était de Montpellier aussi.
Chercheuses qui travaillent sur ces questions-là. Et donc, c'est le travail en commun entre les usagers, on va dire, les citoyens, les agriculteurs, les industriels, les collectivités, l'État.
Ça concerne tout le monde.
Voilà, ça concerne tout le monde.
C'est notre survie.
Une question très démocratique, tout à fait.
Oui, ok. Bon, super, on a hâte de lire tout ça. On enchaîne avec votre prochain dossier, on le suit de près depuis un petit moment, ça concerne la maternité de Ganges.
Oui, alors la maternité de Ganges, alors pour situer géographiquement, la commune de Ganges se situe dans l'Hérault, mais elle n'est pas très loin aussi du département du Gard. Hein, elle est un peu, c'est les Cévennes, hein, c'est le sud des Cévennes, donc c'est une zone rurale. Et donc, où la question de l'accès à la santé et l'accès au système de santé, et notamment à une maternité, se pose depuis plusieurs mois, puisque la clinique de Ganges, qui est donc dirigée par un groupe privé qui s'appelle Cap Santé, elle est pour l'instant, son activité est suspendue, faute de personnel suffisant pour assurer les accouchements. Évidemment, cette situation, les habitants, les élus ne peuvent pas s'en satisfaire, puisqu'on met énormément de temps pour aller ou à Montpellier ou à Nîmes pour mettre au monde son enfant. Donc, il y avait une réunion très importante que nous avons non pas suivie sur place, mais on a eu le compte-rendu, puisque c'était entre les élus de ce territoire, le collectif de défense de la maternité, et l'Agence régionale de la santé et le groupe Cap Santé. La réunion s'est passée au siège, je crois qu'elle s'est passée au siège de l'ARS ou alors sur place, c'est une précision que nous donnons, c'était au siège de l'ARS. Et donc la décision qui a été faite par l'Agence régionale de la santé, qui représente l'État, donc, c'est de construire une toute nouvelle clinique à l'entrée de la commune avec une maternité pour l'année 2025. Bien évidemment, on rend compte de la réaction notamment du maire de Ganges, Michel Fratissier, qui lui nous a confié sa satisfaction suite à l'annonce de ce projet. Il dit que de façon pérenne, nous aurons une offre de soins de qualité sur les prochaines années. C'est quelque chose de positif. En revanche, évidemment, le collectif de défense de la maternité de Ganges est resté un peu dubitatif, il reste un peu méfiant. Et donc, je cite une des personnes qui fait partie de ce collectif, qui est Isabelle Boisson, qui nous dit, je la cite, « Nous n'avons pas eu d'avancée sur notre principale demande qui était de répondre à la situation d'urgence. » Et donc, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas, elles ne veulent toujours pas accoucher à Ganges, mais l'ARS a répondu, enfin répond que pour l'instant il y avait c'était une suspension, donc enfin il y a uniquement les accouchements qui sont suspendus, donc et l'ARS qui est donc dirigée par Didier Jaffre nous explique qu'ils sont toujours à la recherche de gynécologues obstétriciens, d'anesthésistes et de pédiatres. Et il pense, lui, il espère que le projet de la nouvelle clinique va attirer de nouveaux praticiens. Voilà où nous en sommes. Il nous semblait très important de faire ce point d'étape puisque nous suivons attentivement ce dossier depuis plusieurs mois.
Ok, en plus 2025, c'est au meilleur délai, quoi. Ça laisse quand même 2 années, on ne sait pas trop
exactement.
Ce qui va se passer, comment on va faire.
Voilà, exactement.
Ok, ben on va continuer à suivre ce dossier de près. Le troisième titre dont on parle, on revient bien sûr sur la bataille des retraites. On n'a pas fini de se mobiliser et on entame une 8e journée de mobilisation mercredi. Alors, qu'est-ce que vous nous dites?
Donc en fait, évidemment, on rend compte dans le journal de vendredi et du niveau et de ces mobilisations en donnant, comme on le fait depuis le début de ce grand mouvement social avec une intersyndicale vraiment vraiment historique, inédite et qui est toujours très unie. On s'est attaché dans ce dossier évidemment à donner la parole aux salariés du public et du privé qui sont mobilisés. Notamment, on est allé à la rencontre de salariés dans les entreprises privées parce que ils font grève, mais ils font grève dans une certains font des débrayages, et ils font grève dans un contexte aussi où il y a des pressions sur les salaires, il y a l'inflation. Oui. Donc aujourd'hui, faire grève pour défendre son droit à la retraite à un âge correct, surtout pour des ouvriers, c'est quelque chose de très courageux. Par exemple, on est allé interroger des salariés de l'usine Haribo à Uzès. Donc cette semaine, ils ont organisé 3 actions. Évidemment, la journée de mobilisation, mais aussi des débrayages le lundi, le vendredi dernier aussi. Donc des débrayages d'une heure, de 2 heures, qui permettent aussi de se faire, de manifester sa désapprobation de cette réforme. et puis aussi d'évoquer la question salariale, hein, puisque D'accord. cette réforme Macron des retraites aussi a remis en avant, enfin si tant est que ce n'était pas déjà le cas depuis plusieurs mois, la question du partage de la richesse, la question des bons salaires oui. Pour les personnes qui travaillent. Donc, par exemple, le délégué CGT de l'usine Haribo, Guillaume Brandt, nous explique que bon, bah oui, certains salariés, ouvriers, ils sont à découvert avant la fin, largement avant la fin du mois. Les débrayages permettent justement d'impacter la production, donc de se faire entendre, sans forcément impacter toujours les salaires qui sont et qui ne sont pas assez élevés par rapport au travail fourni, et surtout quand on parle d'Haribo, c'est pas la petite PME du coin quand même.
Ouais, hein. On les connaît tous, c'est une grosse.
Par exemple, c'est pareil pour l'usine Perrier à Vergès. Perrier, on parle bien de la boisson pétillante là, hein. C'est pareil, hein. c'est pas la TPE du coin non plus, et eux aussi ils ont fait des débrayages. Pareil pour Schneider Electric à Alès. Donc ça me semblait important dans ce numéro de mettre l'accent sur bien évidemment ces salariés du privé, puisque tout le monde, c'est une réforme qui est envisagée comme étant universelle, hein, c'est-à-dire qu'il va toucher aussi bien les salariés du public et du privé. En parlant des salariés du public, enfin du public qui assure un service public comme le groupe Nicolin, donc qui assure le ramassage des ordures ménagères, notamment sur Montpellier et même la métropole, hein, il y avait 100% de grévistes. Hein. À 7 aussi le dépôt a été bloqué. On voit que ça nous permet aussi de rappeler, je rappelle aussi aux auditeurs qui doivent le savoir, ou en tout cas s'ils ne s'en souviennent pas, c'est que la différence d'espérance de vie entre un éboueur et on va dire un cadre, elle est de 7 ans en défaveur de l'éboueur. Donc ce qui peut expliquer aussi que c'est une profession extrêmement mobilisé, comme on le voit aussi à Paris, où tout le monde proteste contre les ordures qui s'amoncellent, devraient regarder un peu plus loin que le bout de leur nez pour voir pourquoi ces salariés ne peuvent pas travailler 2 ans de plus à ces métiers pénibles et difficiles. Et bien évidemment, pour conclure sur ce dossier important, il y a tout ce qui va se passer à l'Assemblée nationale dans les prochains jours, avec a priori un vote jeudi, et donc on est vraiment au cœur de l'actualité. On va essayer de vendredi de rendre compte au plus près, au plus juste de cette de ce moment historique de d'une bataille sociale importante
qui n'est pas près de se terminer.
Exactement.
Merci Françoise, on continue et on conclut un petit peu avec de la culture. Alors on va parler de deux temps forts, c'est le concert de la Grande Sophie, d'abord le 23 mars, et ensuite vous nous parlez de la Comédie du Rire.
Oui, tout à fait. Alors on est très content à la Marseillaise d'avoir la Grande Sophie dans nos colonnes, qui nous a accordé un entretien. Alors pourquoi ? Parce que en fait elle vient à Montpellier le jeudi 23 mars au Rockstore, grande scène de Montpellier, et elle va chanter notamment, outre ses grands titres qu'on connaît depuis longtemps, elle a donc sorti un 2e album qui s'intitule La vie moderne, et donc elle va présenter l'essentiel de ses titres sur la scène du Rockstore. Elle nous explique que elle a carrément présenté ses premiers titres de ce nouvel album en direct devant le public, puisque l'album a été décalé. Donc, il y a eu de très bons retours, nous dit-elle, des premiers concerts. Elle nous explique aussi que c'est un album qui reflète un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années avec le confinement, le monde un peu virtuel. Pour les artistes, La crainte, c'était que le public ne revienne plus dans les salles.
Oui.
Voilà. Et donc, il y a à la fois le contact qui a été gardé grâce aux écrans, mais comme elle l'explique, puisque la grande Sophie, elle a 53 ans, elle dit qu'elle est, elle, entre, on va dire, entre deux mondes, hein, parce qu'elle a commencé la musique, elle a dit on utilisait des magnétos quatre pistes, et maintenant, c'est de l'informatique musicale. Hein, et donc, elle essaye évidemment de relier les différentes générations, et elle refuse complètement de cloisonner les époques. Et puis, ce nouvel album, elle nous explique que c'est un message qu'elle veut faire passer, à la fois unificateur et teinté d'espoir, et donc de faire passer aussi, de sortir la tête de l'eau, et on sait qu'elle a toujours des titres très très justes, et à la fois très justes, très poétiques, et c'est vrai qu'ils peuvent aussi consoler, et a priori, ça va être un bon moment de musique, de culture sur la scène du rockstar.
D'accord, mais on a hâte de lire tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle a pu vous raconter.
Tout ce qu'elle a pu nous raconter.
Et oui. Et ensuite, la comédie du rire. Alors, qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, la comédie du rire, alors c'est la 8e édition déjà à Montpellier. Ça commence le 15 mars jusqu'au 7 avril. Ouais. Il y a plusieurs lieux culturels qui sont concernés. Donc c'est vraiment un moment qui s'est installé à Montpellier. Laurent Pitt qui a créé donc l'événement il y a déjà 8 ans, sa motivation c'était qu'il n'y avait pas de festival d'humour à Montpellier. Il y a beaucoup de choses à Montpellier, de la musique classique, du rock, enfin,
de
la danse, mais l'humour et le festival d'humour non. Donc c'était l'objectif de faire vraiment cette programmation. Donc il y a un programme pour cette 8e édition. Alors en 2020 évidemment il n'y en a pas eu à cause de la pandémie.
Oui.
Mais il y aura des jeunes humoristes. Hein. On peut citer Laura Calu qui a commencé à faire ses sketchs sur Facebook. Il y a Pierre Thévenot, c'est un habitué du Jamel Comedy Club.
Oui.
Florian Nardone, il est connu sur Instagram. Alors, on voit évidemment que les réseaux sociaux sont vraiment une caisse de résonance pour, y compris pour les premiers pas de ces nouveaux artistes, hein, de stand-up ou de one woman ou one man show.
Oui.
Par exemple, on aura Alexis Le Rossignol qui est chroniqueur de France Inter. Donc voilà, il y a vraiment une pléthore d'artistes. Il y aura beaucoup de femmes aussi, hein.
Ouais.
Ce que nous explique Laurent Pitt, il y a beaucoup de femmes et de spectacles féministes dans le programme. Il estime qu'après le mouvement MeToo, enfin après, dans le sillage du mouvement MeToo, il trouve important évidemment d'en parler. Et alors évidemment, on donne tous les éléments pratiques pour aller écouter et rire avec ces artistes. Il y a déjà des spectacles qui affichent complets parce que évidemment tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est télévision, ça attire beaucoup. Mais il y en a pour tout le monde. Il y a une vingtaine de spectacles. Il y a 9 salles qui accueillent ces spectacles. Donc il y a vraiment
il y a de quoi faire.
Spécifier, hein. Il y a le théâtre Le Point Comédie, la comédie de Basse Dupont, l'opéra comédie, le Chez du Terral, l'Agora, le théâtre Jérôme Savary. Et attention, il y a un concours d'humoristes qui est programmé le lundi 27 mars à 20h30 à l'Opéra Comédie. Ça peut être très sympa. Et puis, il y a des stages d'impro aussi qui sont proposés début avril.
C'est bien ça. Pour ceux qui veulent se lancer.
C'est-à-dire que c'est Laurent Pitt qui va, qui qui va donc animer cet atelier. Et donc, c'est pour donner au grand public les bases de l'impro, de l'improvisation sur scène. Voilà, donc c'est vraiment une belle programmation. Beaucoup de lieux qui se mettent à disposition de l'humour, beaucoup d'artistes et voilà, je veux dire,
ça se popularise ces derniers temps, c'est fou. Hein.
Exactement, l'humour, ça fait du bien, c'est de la culture pleine et entière et on est très contents de leur consacrer un bel espace dans la Marseillaise de ce vendredi.
Eh bien super, on va pouvoir retrouver toute cette programmation et faire notre petit choix de spectacle d'humour. Eh bien, merci beaucoup Françoise Vernat, c'est la fin de ces une. On a tous les détails donc, de tous ces dossiers qui apparaîtront dans l'hebdo de la Marseillaise Occitanie, dont vous êtes la rédactrice en chef et qui sera en kiosque ce vendredi, qu'on pourra tous retrouver.
Voilà, le 17 mars, c'est ça.
Voilà, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour évoquer les titres de la semaine prochaine. Et on vous remercie vivement.
Merci beaucoup.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.